Bienvenue pour cette période, pour une table ronde potentiellement extrêmement déprimante, hein, Apocalypse Tomorrow, on est presque à la fin, hein. Désolé. Pour cette table ronde, en attendant, on a déjà perdu un intervenant, c'est dire si ça se précise. Donc, pour parler de l'Apocalypse, demain peut-être, j'ai quand même un panel de prestige, il faut le dire. Donc, juste à ma gauche, Harley Stone, auteur de BD, évidemment, extrêmement reconnu avec notamment L'Enfeust, avec Troll de Troie, Les Forêts d'Opale, et qui publie donc son premier roman chez ActuSF en 2016, Le Souper des Maléfices.
Oui, tout à fait.
Merci.
Qui est une apocalypse gastronomique.
On en reparlera, j'espère. Alex Gester, qui lui, dont le thème de prédilection, comme il me précisait juste avant, est justement l'Apocalypse. Hein, il publie un premier roman apocalyptique, Tourville au Diable Vauvert, en 2009. Son deuxième roman, Élysée Noire, 666, un épisode de la collection de Polar Rock, Mona Cabriole, aux éditions Latengo, en 2010. Et en 2017, donc, il publie Les Contes du Soleil Noir, une série de 5 courts romans hein, qui paraissent tout au long de l'année au Diable Vauvert.
Absolument.
Ensuite, Pierre Bordage, président historique des Utopiales de 2000 à 2011, un des auteurs de science-fiction les plus prolifiques, que tout le monde à peu près connaît ici depuis Les Guerriers du Silence, les séries Roel, les séries Wang. Mais comment trouve-t-il le temps pour écrire tout ça? Juste pour les derniers, 2012, Ceux qui osent, Ceux qui sauront. Frère Eltor, La Fraternité du Panca, tome 5 en 2012 à La Talente. Chronique des Ombres au Diable Vauvert en 2013. Même année, Giganté, Au nom du Père à La Talente. Les Dames Blanches en 2015. Résonance chez J'ai lu en 2015. Boxing Dolls, édition organique en 2016. C'est donc le clone numéro 22 de Pierre Bordage que nous avons là, les 21 premiers.
Bonjour, je suis pas très au point.
Tu as oublié Écho dans le temps, qui vient de paraître en poche, qui est super sympa, que je viens de lire, qui est génial, voilà, qui est court, qui est super. Voilà.
C'est le clone 23.
Et Arcane chez Bragelonne. Et Mission Moser chez ActuSF. Et aussi Crime Alien et Châtiment chez ActuSF.
En fait, ils sont 8. Voilà. Ils dirigent une équipe de 8 personnes. Voilà.
Ça me revient cher, hein, vous savez. Je suis obligé de partager tous mes droits, c'est pas terrible.
J'avais lu toute la liste, je pensais que c'était un canular, j'en avais éliminé de moi-même, mais non, en fait, c'était physiquement possible. Et Hugo Bellagamba, directeur aussi artistique des Utopiales de 2012 à 2015, enseignant en histoire du droit et des idées politiques à l'université de Nice, qui a reçu en 2009 le Grand Prix de l'Imaginaire pour Solutions non satisfaisantes, coécrit avec Éric Pichol sur un certain Robert Heinlein, qui a reçu le prix Utopial européen en 2010 pour Tancrède, une uchronie, dont le dernier roman, donc L'Origine des Victoires, a été réédité en 2015, un hommage aux femmes, une exploration de l'histoire provençale sous l'angle de la science-fiction, et qui travaille actuellement à un conte futuriste inspiré de l'histoire du droit et des idées politiques. Donc, Apocalypse demain, on reproche souvent, ou parfois à la science-fiction, d'être pessimiste. C'est peut-être vrai. C'est extrêmement réducteur, évidemment. Toute la science-fiction n'est pas pessimiste. Enfin, peut-être pas. Peut-être qu'elle est simplement réaliste et qu'on va tous, de toute façon, vers une fin du monde. C'est tout à fait possible. Quand on parle d'apocalypse, de toute façon, en tout cas d'apocalypse demain, il est clair que la science-fiction traduit forcément de manière diverse, littéraire et cinématographique, les angoisses de fin du monde qui ont traversé toute la fin du XXe siècle, vu que l'étendue de notre discussion est limitée, qui a été donc la peur d'une apocalypse nucléaire qui a accompagné toute la guerre froide, qui a été suivie directement d'une certitude d'une crise environnementale qui allait mettre fin à notre espèce, avec quelques épisodes sur la possibilité qu'on meure tous d'un méchant virus entre-temps, avec aujourd'hui la possibilité qu'on meure d'une apocalypse nucléaire dans le cadre d'une grande crise environnementale et possiblement d'un virus, voire d'une chose toute bête si on a un problème avec le système de santé. Sans oublier les intelligences artificielles qui vont mettre fin à l'espèce et le fait que vous avez toutes les chances, en tout cas statistiquement, qu'il y en ait qui ne rentrent pas vivants chez eux dans ceux qui vont conduire en quittant le festival ce soir. Bref.
Ça s'appelle l'apocalypse individuelle.
L'apocalypse individuelle. Mais parce qu'on est en France et parce que quand même l'heure du dîner approche, j'aimerais qu'on commence avec cette idée d'apocalypse gastronomique. Car tout le monde a été alléché par cette idée de fin du monde qui peut un peu penser à la grande bouffe et qui quelque part nous fait envie.
Oui, dans Le Souper des Maléfices, en fait, là, je m'étais amusé. C'est une comédie, c'est une bouffonnerie. Hein. C'est vraiment un petit roman de fantasy léger, mais où je m'étais amusé à, mine de rien, aborder le thème des OGM, de la malbouffe, et de cet apocalypse qui se dirige vers nos artères et qui commence à boucher nos artères. Sur le terme apocalypse et le plan de l'apocalypse, en réalité, d'une façon littéraire, pour moi, ce n'est pas très porteur en soi, l'apocalypse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est plutôt le post-apo, c'est plutôt la recréation des civilisations et le fait d'imaginer, suivant ce qui a pu se passer comme événement sur Terre, comment va se développer la civilisation suivante. Parce que si on est sur l'extinction totale de l'espèce humaine, bon, dans ce cas-là, on n'écrit plus, il n'y a plus de page. Hein, c'est même plus une page blanche, c'est une page noire. Et on passe à la suite. Et moi, je trouve beaucoup plus amusant d'aller vers le redéveloppement des civilisations dans le temps.
Allez.
Ben oui. Je traduis ce que disait Hugo.
Oui, je suis d'accord.
Mais on ira.
Mais non,
on ira.
Mais l'aspect gastronomique, j'ai pas bien. L'aspect gastronomique.
Non, l'aspect gastronomique, c'est. En fait, c'est vraiment aller tirer très très loin le fil de l'apocalypse. Non, c'est que c'était un roman où je me suis beaucoup amusé à parler de malbouffe, où en fait, dans une ville de fantasy, la population entière était décimée et mourait par centaines de personnes. Parce que il y avait un blé trafiqué, le blé étant quand même à la base de toute nourriture et de la boisson, de la bière en l'occurrence, et où on commençait à avoir à ramasser des cadavres dans la rue tous les matins parce que ce blé formidable qui produisait beaucoup plus, qui avait été magiquement modifié, faisait des ravages et il y avait tout un trafic derrière évidemment de grosses sociétés s'enrichissant. Donc c'était quelque chose d'assez transparent, mais qui me servait de fil conducteur dans une histoire où il y avait par ailleurs un cuisinier de très haut vol qui s'apercevait de ce trafic et qui, avec une agente, allait lutter pour essayer de trouver l'origine de ce blé frelaté.
Je sais pas. Ouais, l'apocalypse, tu disais tout à l'heure que c'est une inquiétude moderne un peu née du nucléaire et tout ça, mais c'est quand même, je rappelle l'apocalypse de Saint Jean quand même, qui est le Nouveau Testament et qui prédit déjà la fin du monde, mais avec l'espoir d'une résurrection derrière. Dans la civilisation brahmanique, il y a le Kali Yuga qui arrive et qui met fin à un cycle et qui repart sur un autre cycle qui est le Satyuga, etc. Donc je pense que la fin des temps a toujours été une préoccupation humaine très importante. Et moi-même d'ailleurs, j'ai été élevé dans la religion catholique et dans la religion catholique, on me disait si tu agis mal, si tu fais des péchés, tu iras en enfer jusqu'à la fin des temps ou éternellement. Et du coup, quand vous allez souffrir éternellement, ça vous fait passer des nuits assez compliquées. Si vous essayez d'imaginer ce que va durer la souffrance, et elle n'est jamais de fin, jamais de fin, jamais de fin, jamais de fin. Donc naturellement, quand j'ai fait l'association, j'ai fait des fins pour essayer de mettre fin à cette souffrance, au moins mentale. Et donc j'ai fait plusieurs post-apocalyptiques, oui. Un autre, c'est nucléaire et génétique qui s'appelle Les Derniers Hommes, c'était mon premier. J'en ai fait un qui est purement génétique, qui s'appelle Les Fables de l'Impur. C'est une apocalypse génétique. J'ai fait aussi une apocalypse en train de se dérouler qui s'appelle Le Feu de Dieu. Une apocalypse climatique. Je dois en avoir d'autres. Une nucléaire qui s'appelle La Chronique des Ombres, mais avec une préservation quand même de cités unifiées, ultra sécurisées et ultra technologiques. Donc il y a plusieurs formes d'apocalypse qui m'ont intéressé. Mais effectivement, ce que disait Christophe, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment va se reconstruire l'humanité. Si on va tirer des leçons de ce qui vient de se passer, si on reproduit les schémas qui ont amené justement à la fin des temps, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les survivants, comment ils vont s'adapter. Dans Les Derniers Hommes, par exemple, il y a un peuple qui s'appelle le peuple de l'eau, qui est chargé de détecter, ce sont des sortes de sourciers, de détecter les dernières sources d'eau potable, parce qu'elles ont toutes été empoisonnées par des anguilles OGM, c'est-à-dire modifiées, pour empoisonner les eaux. Vous savez que les anguilles, ça se répand un peu partout, et donc il ne reste plus grand-chose comme eau potable. Et donc voilà, donc cette tribu devient puissante, puisque l'eau, c'est la vie, et qu'elle détient le secret de l'eau potable. Et donc tout autour s'organise le trafic, c'est-à-dire elle va échanger de l'eau contre des armes, contre ceci, contre cela, et évidemment, on cherche à les éliminer. Et il y a une apocalypse qui se produit, qui est similaire à l'apocalypse de Saint-Jean. Ce sont les mêmes événements qui se produisent à ce moment-là que l'apocalypse de Saint-Jean, avec tous les nuées de sauterelles, enfin, etc. Et donc, voilà, on va suivre le parcours de ces survivants manipulés peut-être par une intelligence artificielle encore.
Oui, parce que ce qui est intéressant dans cette notion d'apocalypse, c'est le fait que c'est une notion religieuse à la base, et que donc on est évidemment culpabilisé et coupable de ce qui nous arrive. Dans l'apocalypse, c'est pas une fin du monde qui arrive avec un astéroïde qui percute la Terre et toute vie s'en va. Non, c'est que l'homme est coupable de sa propre fin, de sa propre mort.
Ouais, ça, en fait, c'est assez intéressant parce que on est dans un pays qui pense avoir tué Dieu et être passé à la laïcité, mais en fait, dans la culture de tous les jours, on est tous immensément pétris de culture catholique. Et on s'en rend pas compte. On fête Noël tous les ans et on fait comme si on était des laïcs. Donc on est des gros naïfs, en fait. Et donc on a passé 2000 ans à croire à la fin du monde pour des raisons de culpabilité, justement, pour des raisons de l'être humain est mal. Et aujourd'hui, on a exactement la même thématique parce que l'apocalypse, il est écologique. Mais qui est-ce qui détruit l'environnement ? C'est nous. Donc c'est toujours la même culpabilité. Donc en fait, on est des drogués de la culpabilité. Il va falloir faire un travail là-dessus.
Sauf que cette fois, la culpabilité est réelle. Sur l'écologie, si, quand même.
Je ne pense pas que l'apocalypse de Saint-Jean repose sur la notion de culpabilité, mais sur la notion de résurrection. Ouais,
mais ça, ce n'est pas démontré scientifiquement. La résurrection.
Si, moi-même, je suis un ressuscité, donc je peux le dire.
Ah oui.
mais je veux dire, dans la symbolique, hein, c'est vraiment...
On a quoi comme symbolique aujourd'hui à la place ?
Je ne sais pas, pour l'instant, je parle de l'Apocalypse de Saint-Jean. Vous avez dit que c'était basé sur la culpabilité. Je ne pense pas. C'est une question de résurrection.
Parce qu'il y a un jugement, quand même. Hein. Et dans le jugement, il y a la notion de juste, injuste, coupable, pas coupable.
Mais je ne le vois pas comme ça. Après étude approfondie des textes religieux, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme un jugement, mais comme une sorte de... espérance, résurrection, apocalypse, ça veut dire révélation. Et donc, c'est une révélation comme quoi l'homme est immortel, finalement. C'est ça, l'apocalypse.
Je vais abonder un peu dans le sens de Pierre, sur le fait que effectivement, on a dans certaines branches chrétiennes, on va avoir une grosse insistance sur effectivement la culpabilité de l'homme, qui est, on va dire, effectivement, dans la religion catholique, on part coupable, pratiquement depuis le début. Ceci dit, effectivement, quand on arrive à l'Apocalypse, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du déjà écrit, du déjà fait, et qui, dans beaucoup de branches chrétiennes, vont être complètement détachées des actions des hommes. Ce qu'on a de commun dans l'Apocalypse, c'est le fait de comprendre la nature de la réalité et de comprendre le sens de l'histoire par un bouleversement de la situation dans laquelle on a vécu. Par contre, le lien effectivement direct entre la culpabilité des hommes et l'apocalypse, il est noté de manière beaucoup plus directe à d'autres moments. Au moment du déluge, par exemple, là, oui, effectivement, quand Dieu décide de noyer, de faire 40 jours de pluie...
Là, on n'est pas dans la région...
Mais on est dans le texte lui-même. Là, effectivement, on a une notion des hommes qui se sont mal comportés, qui n'ont pas respecté Dieu, qui ont taillé des images, etc. Et là, on les punit. Ce qui se passe au moment de l'apocalypse, effectivement... est plus détaché des actions, et on a beaucoup de branches dans lesquelles effectivement cet apocalypse est déjà écrit, c'est le retour du royaume de Dieu, et il n'est pas spécialement lié il n'est pas le résultat logique des actions de l'homme. Voilà.
Je pense que de toute façon les évangiles, quand on les relit, sont extrêmement déculpabilisants, puisque à chaque fois le Christ dit on ne juge pas, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire que c'est déculpabilisant. Ce qui a culpabilisé, c'est l'Église derrière.
C'est Paul et les actes des apôtres qui sont morts.
L'enseignement christique, il faudrait que l'Église, simplement les chrétiens, reviennent à l'enseignement christique. Et l'enseignement christique, il est hyper déculpabilisant.
Il est complètement amoral. Hein. Pour reprendre un principe très simple, Jésus est totalement amoral. Quand Jésus explique comment tombe la grâce de Dieu, il explique que certaines graines tombent sur un terrain fertile, d'autres vont tomber dans le fossé et donc ne vont pas développer la grâce. Il y a des contradictions total entre le message de l'Ancien Testament, les paroles de Jésus et les actes des apôtres. Pour résumer juste en deux phrases, et je ferme ma parenthèse théologique, c'est dire simplement, Jésus, quand il arrive dans les noces de Cana, il voit qu'il n'y a que de la flotte, et lui, il crée du pinard. Et derrière, il y a Paul, qui, des décennies plus tard, alors qu'il ne l'a jamais rencontré, va voir les Corinthiens en leur disant « Arrêtez de picoler, les gars ». Et on a vraiment des contradictions absolues entre certaines parties du texte. Par contre, là où je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est qu'effectivement, on a des branches sur cette idée de culpabilité culturelle dans notre bassin culturel. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez profond qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais qui est un des un des axes de notre culture, certes, et qu'effectivement, dans cette notion d'apocalypse, on a cette notion de fin du monde, de fin du système tel qu'on le connaît, et qui surtout nous révèle quelque chose, nous ouvre sur quelque chose d'autre et nous permet de comprendre la logique et le sens de notre histoire telle que nous l'écrivons. Et je rends la parole.
Ouais, en fait, je vois...
Vous avez 2 heures.
Ouais. Il y a une orientation qui va beaucoup. On dit apocalypse, donc on va parler de la Bible. Non, parce qu'on est quand même pas mal là-dedans. Donc effectivement, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, il y a eu la Bible. Voilà. Enfin, il y a plein de romans de fantasy sympas. Mais je pensais qu'on était plus dans la science-fiction que dans la fantasy.
Alors justement, voilà.
Sur cette thématique-là.
Non, mais c'est très normal qu'on parle de la Bible. De toute façon, c'est évident, vu que le mot apocalypse vient de là. Mais en même temps, on peut parler de science-fiction. Par exemple, moi, je peux vous présenter une apocalypse positive. Très bien.
Ah ouais.
Une très bonne apocalypse. Bon. Isaac Asimov, une nouvelle d'Isaac Asimov qui s'appelle La Dernière Question. Alors voilà. L'humanité demande si l'entropie peut être inversée, si on peut revenir en arrière, si on peut empêcher la déperdition de l'énergie. Puis elle pose la question à des ordinateurs qui deviennent petit à petit des intelligences artificielles. Enfin, ce n'est pas le mot qu'emploie Isaac Asimov. Et puis, génération après millénaire, après éon et après éon, l'humanité finit par disparaître complètement. Elle se transcende en être d'énergie. Elle abandonne complètement tout ce qui faisait l'humanité. Et elle repose toujours la même question à cet ordinateur que Asimov invente, qui est le multivac. Et à la fin, il ne reste rien. Donc c'est l'apocalypse. Littéralement, l'humanité a disparu. Les planètes ont disparu. Les galaxies ont disparu. Les nébuleuses ont disparu. Il reste juste une espèce d'ordinateur artificiel qui enfin trouve la question et il dit que la lumière soit. Et poum, on reboot sur le christianisme, en réalité. Mais c'est une manière rationnelle de parler d'apocalypse. Or, la science-fiction, chers amis, c'est une littérature rationnelle. Mmh. C'est une littérature dont l'imaginaire se construit par la rationalité. En tout cas, c'est son point de départ. Et alors après qu'elle parle de Dieu, évidemment, comme toute littérature, elle parle des hommes. Et lorsqu'on parle des hommes, on parle de ce qui préoccupe les hommes et de ce qui inquiète l'humanité. La divinité... voire la divination, j'ai failli faire un lapsus tout à fait révélateur, la divinité est d'une des problématiques de l'être humain. Donc, la science-fiction ne peut pas ignorer la divinité et l'apocalypse. Mais en même temps, elle essaye d'en donner une lecture divine. Par exemple, le transhumanisme,
divine.
Tout le monde nous le présente comme une forme d'apocalypse. Le transhumanisme, c'est quoi ? C'est la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. C'est un énième avatar des logiques d'apocalypse que l'on trouve dans la science-fiction, ni plus ni moins.
C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que la science-fiction est là pour faire des mises en garde à travers toutes ces apocalypses, pour essayer de nous dire, faites gaffe, ça peut partir dans telle direction, ça peut partir dans telle direction. Et donc, est-ce qu'il y a forcément un côté moralisateur là-derrière ?
Mais ce n'est pas forcément moralisateur. La science-fiction peut nous mettre en garde, effectivement, mais ce n'est pas la meilleure. En général, la science-fiction qui met en garde, elle périme assez rapidement. C'est-à-dire les romans de science-fiction pamphlétaires qui sont des mises en garde,
Il y a une exception notable, ouais. Quand même. Un des bouquins qui se vend le plus en librairie dans le monde entier en ce moment, c'est 1984 d'Orwell.
Bien sûr.
En même temps, j'ai vu un mème qui circulait sur Internet, que j'adore. 1984 n'était pas censé être un manuel d'instruction.
Oui, tout à fait. Mais 1984 est tombé parfaitement juste. Donc, c'est pas la fin du monde, 1984. 1980, et non. Et non, il faut être positif quand même. Hé, les cocos, 1984...
Ah, le totalitarisme positif, yes.
Mais non, c'est pas ça. C'est que le totalitarisme peut être dépassé. L'ignorance, c'est la force. Si nous renonçons à savoir, on sera ignorant. Et donc, le totalitarisme aura gagné. Pourquoi ce bouquin se vend ? Parce que les gens, justement, ont conscience que le monde qui est le nôtre aujourd'hui est dans cette logique-là. Ils veulent lutter contre. Sinon, ils ne se vendraient pas. Ils seraient retirés des librairies. Donc la preuve qu'il se vend et qu'il circule, c'est qu'on n'est pas encore dans l'apocalypse, heureusement. Je pense que ce bouquin est tout à fait, comme Fahrenheit 451 d'ailleurs, une dystopie parfaitement utile, et là, se rattraper par la réalité, ça, on est tout à fait d'accord.
Alors, Christophe disait, c'est des mises en garde, donc c'est de la peur, finalement, la peur de ce qui peut nous arriver, c'est la peur de la mort, et aussi bien le processus religieux que le processus technologique, c'est la peur de la mort, donc on veut sortir de la mort. Or, je pense que le transhumanisme saute une étape qui est celle de l'humanisme. Et donc je pense que l'humanisme est très important, mais l'humanisme, il est lié à la mort. Et si on n'accepte pas sa mort, alors on va vers toutes les catastrophes en permanence, puisqu'on va se débattre comme des rats pris au piège pour se sortir de là. Et on va faire très très mal, on va griffer, on va mordre, on va faire tout ce qu'on peut pour se sortir du piège. Donc je pense que la véritable humanité, on comprendra la véritable humanité, et je vais revenir à l'apocalypse et à la résurrection, quand le Christ dit je suis pas chrétien, enfin je suis d'origine chrétienne mais je suis pas pratiquant chrétien, mais pour moi l'enseignement du Christ c'est quelque chose de très important parce que ça nous fonde énormément. Mais quand il dit vous êtes les fils de Dieu, ça veut dire que vous bénéficiez de toutes les possibilités, y compris celui de renaître ou celui de ressusciter. Et donc il y a un passage qui est obligé qui s'appelle la mort, et cette mort crée une peur immense qui nous fait essayer de trouver des solutions technologiques, religieuses, pour se sortir de là. Mais je pense que c'est l'acceptation de sa pleine nature qui pourra éventuellement faire sortir l'humanité de ses impasses. Enfin, ce que je crois profondément. Mais,
en fait, dire humanité, moi, ça m'embête parce qu'on est vachement culturo-centré là, sur le christianisme, etc. Moi, dans les contes du Soleil Noir, j'ai voulu m'intéresser à l'hindouisme et au cycle du Kali Yuga. Et de ce que ça implique, ce qui est assez super, c'est que le cycle du Kali Yuga, il dure des centaines, voire des milliers d'années. Ouais. Donc nous qui sommes là, on est dans l'ère du Kali Yuga qui a commencé il y a déjà des centaines d'années avant nous et qui va durer encore des centaines d'années. Et c'est le cycle de la destruction et de la fin du monde. Parce que c'est le cycle qui clôt.
Le temps du fer. Donc, quoi, ouais.
Voilà, le temps du fer. Donc ça veut dire, on est né pendant la fin du monde et on ne connaîtra rien d'autre.
Mais c'est
Donc ça dédramatise un petit peu, d'autant qu'on est dans le cycle de la métempsychose qui nous coupe de l'angoisse de la mort, parce que c'est une vie parmi d'autres, il y en aura d'autres.
Bien sûr, en fait,
un système de cycle qui est un peu cassé dans le système judéo-chrétien un petit peu, on a l'impression qu'il y a une rupture, un peu comme dans le gnosticisme, où pouf, c'est cassé, ça marche plus très bien en fait. Alors que dans l'hindouisme, ça continue de tourner. Hein.
Oui, ça repart aussi dans le christianisme, parce qu'il y a la résurrection, donc ça veut dire que c'est relancé d'une façon ou d'une autre. Mais je suis d'accord que la réincarnation... ça manque de cycles. Il faut monter un magasin de cycles, mon vieux.
Il y a beaucoup de cycles.
Petit vélo.
La réincarnation fait qu'effectivement, il y a une continuité permanente dans la vie. Et puis, toutes les visions cycliques, comme celle des Amérindiens, c'est aussi des recommencements permanents.
En fait, tout ça, c'est culturel. C'est une manière de percevoir la vie, le sens de l'univers, etc. Nous, on a la note qui est pourrie parce qu'elle est truffée de « il y a une fin ». On est super ethnocentré, genre on va mourir, donc tout va mourir, ah non, on panique. Non, les gens qui vivent dans les cycles, ils n'ont pas ce genre de trauma. On a des traumas super culturels, à nous là, français, occidentaux, il faut sortir un peu de cette case, quoi, si on veut sortir de ces grosses angoisses.
Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec ça. Bon, on attend quoi, le Christ?
Non, je voulais rebondir justement, mais tu l'as fait tout seul, sur ta réaction en disant... Déjà, tu avais une première réaction que tu as commencé à développer hein, sur le fait qu'on était très ethnocentré et qu'on pouvait imaginer d'autres apocalypses et qu'on était en un cycle beaucoup plus long. Et puis aussi quand tu as réagi sur le fait que, selon toi, la science-fiction n'était pas forcément rationnelle.
Et tout de suite, non, c'est parce qu'on appelle ça science-fiction. Il faut pas oublier que dans fiction, on est complètement dans l'irrationnel. On parle de gros trucs qui n'existent pas du tout et qui sortent de l'imaginaire, de l'inconscient, de quelqu'un qui s'est tapé un trip en écrivant un texte. Voilà, William Gibson, quand il a écrit Neuromancien, les journalistes lui ont demandé « Vous êtes super calé en réseau informatique ?» Il dit « Non, je suis novice, j'y connais rien. J'ai juste écrit Neuromancien, qui soi-disant réinventait Internet. » Donc voilà, pour moi, la science dans la fiction n'est que la moitié du process. Mais l'autre partie fiction, c'est de l'ordre de l'imaginaire, de l'inconscient. On est dans autre chose. Et aller nous sortir une science dure de l'inconscient, moi je la cherche. Hein.
Mais c'est pas forcément les sciences dures, hein, la science-fiction. Ça peut être toutes les sciences sociales, toutes les sciences de l'humain, enfin les sciences molles, ce qu'on appelle les sciences molles. Donc ça fait partie du processus de la science-fiction.
C'est moyennement envie, les sciences molles.
Les sciences molles. L'anthropologie, l'histoire, l'ethnologie, la psychologie, la philosophie, tout ça. Ça fait partie intégrante de la science-fiction.
L'important dans la rationalité de la science-fiction, c'est le fait que, quel que soit le point de départ, aussi loufoque soit-il, de s'y tenir et
de justifier
et de générer et d'être logique dans l'interne de son récit.
Bah à un moment, il y a eu Philippe K. Dick.
Oui, il y a eu Philippe K. Dick. Bon, lui, il était sous acide tout le temps. Il a fait des trucs
formidables. Non, il a démenti.
En attendant, chez K. Dick, j'aime beaucoup K. Dick, mais il y a des problèmes de structure parfois, justement, et on peut être amené à décrocher de K. Dick parce que cette logique interne ne marche plus, ne fonctionne plus.
On lit des bouquins pour sortir de la rationalité. Pendant 2000 ans, les gens, ils ont lu la Bible, quand même. Donc, on ne lit pas forcément pour avoir de la rationalité. Bon, on est au 21e siècle, alors effectivement...
C'était le premier bouquin de science-fiction, sans doute.
La science, pas trop dedans, en même temps.
Non.
Non, c'était un roman fantastique. Un grand roman fantastique.
Mais quand même, pour moi, ce qui fonde un bon bouquin et la rationalité dans la science-fiction, c'est cette cohérence interne. C'est le fait de prendre quelques présupposés et de les dérouler avec logique, quelle qu'elle soit. Ce qui amène toute la richesse, parce qu'après, chacun part sur son univers, chacun part sur ses hypothèses, et à l'arrivée, tout fonctionne.
pas.
Alors du coup, pourquoi écrire de la fantasy pour parler de Monsanto?
C'était pas le but de parler de Monsanto. C'était une intrigue. Si, c'est parce que c'était une base d'intrigue de polar, et que dans tout polar, il faut un méchant, il faut une enquête, et voilà. C'était une manière de caractériser mon méchant sur des choses qui sont des préoccupations actuelles sur lesquelles on se reconnaît. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le fonctionnement de mon univers de fantasy à ce moment-là.
Et qui aurait été très différent si ça avait été un univers de science-fiction ?
Oui, un univers de SF. J'ai créé assez peu de SF. J'en ai fait quand même quelques albums, mais pas énormément. J'ai beaucoup plus fait de fantasy. Parce que justement, je préfère une totale liberté plutôt que la cohérence logique et scientifique à laquelle je m'astreins quand je fais de la SF, peut-être à tort, mais ça, c'est ma culture de la SF. Ou alors, je pars vers le planète fantasy assez facilement.
Entre toutes ces fins du monde, ces cycles, ces messies, quand on parle d'Apocalypse Tomorrow, juste comme ça sur un titre de table ronde, on s'imagine quand même discuter à un moment du caractère soit alarmiste, soit pessimiste des textes de science-fiction. Tu as déjà envie de réagir?
Oui, y a ce côté lanceur d'alerte qui foire complètement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de grands romans de science-fiction qui sont là pour lancer une alerte, 1984, etc. Et ça n'empêche pas mal de choses d'arriver dans le monde réel après. Donc, parce que ça reste de la littérature de divertissement et que c'est encore considéré comme ça, en fait. Après, les gens vont lire des essais sérieux sur ce qui ne change pas beaucoup plus la donne non plus, j'ai l'impression. Tout à l'heure, quand on parlait de morale, en fait, moi, je me suis intéressé à la philo à travers Nietzsche. J'ai pas lu la Bible en entier. En revanche, j'ai lu l'intégrale de l'œuvre de Nietzsche jusqu'à l'Antéchrist, où il pose un process qui s'appelle le nihilisme. Le nihilisme, et qui est très présent dans la culture occidentale et particulièrement européenne, et qui pour lui est basé au départ à ses fondements dans la religion, à travers deux religions, la religion juive et la religion chrétienne, dont les deux mamelles sont pour lui le ressentiment pour la religion juive et la mauvaise conscience pour la religion chrétienne. Et il pense qu'un peuple ne peut pas aboutir à partir du moment où il est rempli à ce point-là de colère et de culpabilité. Est-ce qu'on est débarrassé de cette colère et de cette culpabilité aujourd'hui en 2017 ? Moi, je pense qu'on est rempli de cette colère et de cette culpabilité partout autour de nous et qu'on est en train de tous prier que les ordinateurs vont venir trouver la solution pour nous, voire nous remplacer.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que les ordinateurs remplacent exactement de la même façon le mode divin, c'est-à-dire qu'on attend une intervention extérieure de quelqu'un pour régler nos problèmes, comme les religieux attendaient l'intervention d'un dieu extérieur pour résoudre nos problèmes. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Pas plus que
c'est
Dieu.
À nous de faire le boulot.
Ouais, c'est ça. Pas plus que Dieu n'a apporté de réponse à l'humanité. Pas plus l'ordinateur ou la technologie ou le post-humanisme, transhumanisme, tout cela n'apportera de solution à l'humanité. La seule façon, c'est de tout effectivement percevoir de l'intérieur. Et je pense que c'est la clé finalement. Et là, tu as parlé de morale, mais il n'y a plus de morale, quoi. Il y a juste une perception de nous sommes tous unis par quelque chose de très profond. Et on nous maintient à la surface, les religions nous ont maintenus à la surface de la même façon que les technologies nous maintiennent à la surface, nous empêchent d'aller au fond, voir ce qui est commun à tous et qui est cette espèce de vie, je pense, qui est indestructible, qui est éternelle, immortelle. Simplement, il faut accepter de couler. Et couler, ça veut dire oublier les mécanismes qui nous animent en permanence, qui sont les mécanismes de peur, hein, qui sont les mécanismes nationaux, sociaux, sexuel, religieux, etc. Tout ça qui nous maintient à la surface. Et je pense que c'est un moment où il faut abandonner tout ça, dire c'est essayer de s'étudier soi-même et de dire quel est le mécanisme qui est en train de me mouvoir actuellement et d'en prendre conscience et de dire oui, je peux me laisser aller tranquillement dans le fond parce que là, il y a quelque chose à trouver. Et je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui va au fond, finalement. Tu parlais de fiction tout à l'heure, le côté rationnel, effectivement, dans la science-fiction, on va plutôt partir d'un préjugé technologique, même si on invente complètement cette technologie. Mais à un moment, l'auteur, lui, plonge dans le fleuve humain très profondément et trouve des trucs dans le fond, les ramène à la surface. Des fois, c'est pas joli, des fois, c'est magnifique. Et voilà, l'offre à l'humanité, parce que c'est l'auteur, c'est sa responsabilité. Je pense c'est la plongée dans le grand fleuve humain pour aller chercher des choses pour ramener à la surface.
En fait, par rapport à la science et à la morale, Il y a, j'avais une très belle encyclopédie de la SF que j'ai perdue depuis, qui plaçait le point de départ de la science-fiction avec Frankenstein de Mary Shelley, parce que pour la première fois, il s'agit de la science qui justifie l'histoire surnaturelle par l'électricité qui ranime le monstre, ce qui n'était jamais arrivé avant. Mais il y a une particularité. Le docteur est coupable d'avoir ressuscité le monstre. Et quelque part, il y a encore une ambiance chrétienne qui plane dans ce texte parce qu'il y a la culpabilité. Et à cela, j'ai vu une conférence où quelqu'un proposait une alternative intéressante. Il y a un autre mythe qui est le même que le mythe du monstre de Frankenstein, c'est celui du golem. Et le golem juif ne pose aucun problème parce que c'est la volonté de Dieu et c'est la volonté du rabbin qui lui ont donné vie. Et donc, il n'y a pas de culpabilité en jeu. En fait, la question de la culpabilité qu'on investit dans la découverte scientifique, elle est très chrétienne. Je veux dire, ils se sont battus pendant 2000 ans quand même contre les progrès de la science, quoi. Donc voilà, c'est une manière d'aborder. Je pense que ces questions de culpabilité vis-à-vis de la culpabilité écologique, elle est terrible. Vous mettez au monde un gosse aujourd'hui, sachez que dès le premier jour, il va commencer à consommer de l'énergie, des matières premières, etc., sur une planète qui ne peut pas les soutenir. C'est le discours qui tourne partout autour de nous. Comment vous vous sortez de ça, quoi ? Donc, je pense que c'est dans nos têtes, dans nos psychologies qu'on va aller chercher d'abord les solutions à la fin du monde, au présent, quoi.
Et donc, vous vous retrouvez sur une chose, en tout cas sur un procédé de fiction dans lequel on va finalement projeter une fin du monde pour révéler ce qui reste, en fait.
Pour nous explorer à l'intérieur, pour plonger, comme tu disais, plonger en nous et arriver à trouver ce qui est solide. Les fins du monde, c'est tous des bines. Donc, c'est une occasion de chercher ce qui tient encore un peu. Je pense que le post-apo, c'est ça, hein, un petit peu. C'est qu'est-ce qui tient encore après que tout se soit débiné.
Chercher l'essentiel.
Ouais, juste pour essayer d'apporter... Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, absolument. Tout à fait d'accord sur le fait que l'auteur va chercher au fond. Mais je ne vois pas en quoi... j'ai du mal à voir en quoi le fait d'aller chercher des choses au fond nous dédouane de ce que nous avons créé en surface. Par exemple, l'État, les nations, le totalitarisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire... que ce que nous avons au fond n'est pas la cause de ce que nous avons créé en apparence. Je veux dire, par exemple, vous prenez le Léviathan de Hobbes. Pourquoi Hobbes écrit le Léviathan ? Il vit dans une Angleterre qui est complètement en convulsion. On est au XVIIe siècle avec la dictature de Cromwell, la décapitation des rois. Il connaît un monde dans pleine insécurité, en pleine décadence. Donc il va au fond, Hobbes, Thomas Hobbes. Il va au fond et qu'est-ce qu'il en ramène ? La pire de toutes les solutions et à la fois la meilleure de toutes les solutions, l'État, le Léviathan, c'est-à-dire une puissance capable de nous sanctionner que nous avons créée nous-mêmes volontairement par un contrat et à laquelle nous donnons naissance de telle manière que nous ne puissions plus la contrôler. Puisque je rappelle que le Léviathan, dans le pacte social, n'est pas parti au contrat. Donc nous nous sommes tous engagés dans l'idée de Hobbes, hein, bien évidemment, hein, donc, à créer un monstre juridique, un monstre froid, un monstre artificiel qu'on appelle l'État, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de culpabilité, et qui nous sanctionne lorsque nous sortons du rang. Et d'où on l'a créé, ce monstre ? Mais il vient de nous. Donc en quoi le fait d'aller au fond nous permet de régler tous les problèmes de culpabilité que nous avons créés ? Les religions viennent aussi de ce fond-là, de cette angoisse profonde, de cet inconscient, pour prendre un terme psychanalytique, qui est au fond de nous et qui nous pousse à créer ces choses-là pour nous contrôler nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être schizophrène, on ne peut pas à la fois dire on refuse l'ordre, on refuse l'État, on refuse la contrainte, on refuse la loi, et on va aller chercher au fond des solutions. Mais c'est de là d'où elles viennent, ces solutions. Donc, à la limite... on devrait peut-être essayer de mieux se comprendre soi-même à travers la fiction, à travers nos représentations, à travers l'imaginaire, et de savoir pourquoi nous avons tendance à toujours vouloir confier à une puissance extérieure à nous le contrôle de nos propres comportements. C'est ça la question. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pareil, on va tout confier aux machines. Mais on va faire une sorte d'État numéro 2. Dieu, l'État, les intelligences artificielles, et puis après quoi ? C'est toujours les mêmes solutions. Donc je vois pas, je comprends bien la démarche, mais en quoi ça va nous sauver d'aller... Et si on retombe sur les mêmes résultats, si on retombe sur les mêmes sources, finalement ?
Ouais, je pense qu'il y a deux choses là-dedans, dans ce que tu dis. Il y a effectivement ce qui se passe à la surface, c'est les vagues. Voilà, regardez, tous à votre place, vous êtes tous une vague. Nous, on est des vagues et on a chacun une place. Mais personne dans cette salle n'occupe la même place, personne n'a la même vision des choses. Auteur vendéen. Et donc, moi je vous vois, vous me voyez, Christophe vous voit, etc. Donc personne d'entre nous n'a la même place. Donc on est tous des vagues. Et à un moment, les vagues vont rentrer en collusion les unes contre les autres. Il va y avoir une sorte de côté furieux des choses. qui fait que les vagues vont finir par s'écraser sur la plage, etc. Mais le fond est toujours là, lui. Le fond est toujours là. Donc il ne s'agit pas de nier ce qui se passe à la surface, parce que ce qui se passe sur la surface, au contraire, il faut complètement l'accepter, le regarder, regarder les mécanismes qui nous poussent là-dedans dans ce qui se passe à la surface. Tu parlais du Léviathan ou du monstre administratif. Bon, voilà, on le regarde, comment ça fonctionne, pourquoi on l'a créé, qu'est-ce qu'il nous apporte. Mais c'est ne pas être dupe des choses, c'est ne pas être maintenu, ce que je disais tout à l'heure, maintenu à la surface par quelque chose. C'est être capable en même temps de vivre à la surface et de plonger à l'intérieur, je pense. Et donc, de plonger de l'intérieur, de ramener des choses nouvelles, peut-être, parce que comme vous êtes chacun unique dans cette salle, vous avez tous des solutions uniques à proposer qui vous regardent, vous, selon votre sensibilité. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les apporter aux autres pour voir ce qu'on peut en faire. Et souvent, on n'a pas l'occasion de le faire parce qu'on est... Oui, la technologie nous maintient à la surface, nos téléphones portables nous maintiennent à la surface, nos ordinateurs nous maintiennent à la surface, comme la religion nous maintient à la surface, par le rituel, par le sacré, par ceci, par cela, par l'obligation, par la punition, on était toujours maintenu à cette surface. Les chrétiens, par exemple, l'église catholique, a extrêmement de mal avec ces mystiques, elle ne savait pas quoi en faire, parce que c'est des gens qui échappaient à tout contrôle. Du coup, ce n'était pas des soldats de la foi, c'était des gens qui vivaient, qui expérimentaient individuellement les choses. Et il y a une très grande différence entre un prophète et ses disciples, c'est que le prophète vit, plonge, va chercher les choses, et que le disciple conceptualise l'expérience. C'est-à-dire que du coup, il passe de l'expérience vécue par le prophète à l'ordre et au dogme énoncé par un disciple, saint Paul en l'occurrence. Et donc, du coup, on perd complètement l'idée de l'expérience, et plus personne ne va plonger, parce que plus personne ne va chercher l'expérience. Le chamanisme, par exemple, c'est des gens qui vont dans l'expérience en permanence, quoi. Ils vont chercher les choses en permanence. Nous, que faisons-nous ? On reste au niveau du rituel, et je pense que la technologie appartient à l'ordre du rituel aussi.
Alors, je suis tout à fait d'accord, mais... le rôle de la science-fiction, c'est quoi ? Le rôle de la science-fiction, c'est de nous raconter des histoires. De nous raconter des histoires qui nous font vibrer, qui nous transportent, qui nous angoissent, qui nous font réfléchir, mais d'abord, on raconte des histoires. Moi, je pense qu'on ne peut pas écrire des romans littéralement sur ça. Je crois qu'il faut laisser venir l'imaginaire, écrire ce qu'on a à écrire, et savoir que ce qui passe dans cet imaginaire, dans le niveau, le niveau, pour reprendre ta métaphore de l'océan, ce qui est dans les vagues que vous allez lire, dans le récit que vous allez lire, nouvelle, novella, roman, etc., apocalyptique, post-apocalyptique, etc., c'est pas dans les mots. Dans les mots, vous vivez une histoire, vous suivez l'histoire, c'est un bon roman, vous avez envie de le recommander à vos amis, vous avez envie de le relire, et ça, c'est important. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui est en dessous des mots, dans le non-dit. Il y a un concept, alors, qui est très difficile à manier, que Gérard Klein a mis en avant dans Trames et Moirées, un essai qu'il a écrit maintenant il y a des années, qui s'appelle la subjectivité collective. L'idée, c'est que, je vais essayer de le résumer, on a fait des journées d'études là-dessus, et c'est un concept extrêmement difficile parce qu'il est pluridisciplinaire, mais l'idée, c'est que quand nous parlons, il y a ce que nous disons et il y a ce que nous ne disons pas et qui passe quand même de l'un à l'autre quand nous communiquons. Et je pense que le rôle de l'auteur, c'est de jouer son rôle d'auteur, d'écrire un roman, et il fait passer dans ce roman des choses qui ne sont pas dans les mots, qui sont dans l'articulation, les idées, les images qui vont naître dans l'esprit du lecteur, etc., mais dont l'auteur ne doit certainement pas faire l'instrument premier de son écriture. Sinon, il finit par écrire des choses qui sont complètement mystiques, illisibles, invendables, et qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont autre chose, de la transe ou de la révélation. Les auteurs de science-fiction, cher public, ne sont pas des prophètes. Voilà, faut arrêter avec ça. Les auteurs de science-fiction sont pas là pour vous donner des révélations. Ils sont là pour vous raconter des histoires et faire passer des subjectivités qu'ils ont et qui vont peut-être rencontrer la vôtre, mais de façon justement sous la surface du récit. C'est comme ça que je vois les choses.
Entièrement d'accord avec toi. Hein,
moi, je défends beaucoup la superficialité du récit parce que sinon on perd les lecteurs très vite. Moi, j'ai toujours écrit avec énormément d'humour, quel que soit le sujet, j'ai toujours mis de l'humour. Après, on peut appeler ça une pudeur, on peut appeler ça une façon de capter l'attention pour amener à, en effet, réfléchir à ce qu'il peut y avoir en dessous. Mais on est dans des littératures de distraction. En effet, ce n'est pas des essais. Quelques auteurs de science-fiction, parfois, peuvent écrire par ailleurs des essais, mais avant tout, là, Hugo a mille fois raison, on est dans des récits d'aventure, des récits humains. On suit des personnages avant tout, puisque quel est l'intérêt d'un roman ? C'est de créer une empathie avec un personnage, avec un ou plusieurs personnages. ou une non-empathie, ça peut être un exercice différent, mais de toute façon, on joue quand même sur la relation empathique qu'on a avec les personnages. Et il faut garder cet aspect superficiel. Alors, je vois très bien, Pierre, évidemment, tout son fond mystique, humaniste, et que je respecte, mais tu es le premier à faire passer tout ça à travers des personnages.
Évidemment, j'essaie de garder évidemment ce que les Américains appellent le sense of wonder, qui est de capter déjà le lecteur par une histoire, avec des personnages. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est incarné par des personnages. Et je ne suis pas du tout un prophète. Pas du tout. Donc je pars avec mes histoires et après...
Malgré ta tentation de monter une petite secte...
Oui, d'accord. Non. Je suis en train d'étudier les cotisations là actuellement.
Je prends les inscriptions, vous pouvez passer me voir.
Ceux qui veulent souscrire, c'est juste à la fin de la conférence. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Hugo, c'est-à-dire que c'est malgré soi que tout arrive après. C'est la plongée, elle se fait dans l'imaginaire, dans la façon de... le rapport à l'écriture. J'ai l'impression que l'écriture, pour moi, c'est un fil d'Ariane qui m'emmène dans mes labyrinthes intérieurs, qui ramène des choses dont je ne suis pas conscient, parce que effectivement, je suis mes personnages, je souffre avec mes personnages, je suis en permanence avec eux, donc ce qui est important pour moi, c'est les personnages. Mais après, ça ramène tout un tas de trucs qui sont le fond, effectivement, le fond de l'océan, ou le fond de l'auteur, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui est au fond des choses, sous cette superficialité du roman. Mais évidemment que pour moi, elle est extrêmement importante.
Et juste pour aller dans ce sens-là, il vient d'écrire un petit roman qui s'appelle Écho dans le temps, qui est un court roman qui a été publié en poche, il se trouve que j'ai lu la semaine dernière, en fait, parce qu'on s'est vu dans un autre festival à Scientilivre à la Bège, et qui est d'une limpidité, d'une simplicité, d'une accessibilité. Ça se lit de façon admirable, et c'est une histoire avec deux personnages, c'est très simple. Il y a une très très belle histoire, il y a des tas de choses qui passent évidemment, mais on est d'abord sur les personnages. Je trouve que c'est très réussi ton dernier roman.
Précipitez-vous à la librairie après.
Avant de vous laisser la parole, de prendre des questions, j'aurais quand même une petite question. Là, quand on parle d'apocalypse en science-fiction, il y a quand même des périodes précises qui reviennent. Notamment, on se souvient de ce que disaient les éditeurs de pulp aux États-Unis juste après Hiroshima, où ils disaient qu'ils étaient obligés de rejeter 90% des nouvelles qu'ils recevaient parce qu'ils n'avaient pratiquement que du post-apo, de monde désertique rempli de mutants mal formés, de fins de race. Donc il y avait un vrai côté à ce moment-là exultoire, ou en tout cas d'aller contre ses peurs ou de les exprimer par des récits. À ce moment-là. Et là, on comprend très bien ce qui se passe. On a aujourd'hui un contexte, un multi-contexte comme ça. Mais quand même, quand l'apocalypse est son thème préféré, quand on écrit tant de fins du monde, quand on va chercher les détails de tant de fins du monde, de tant de fins d'empire, vous y trouvez quand même du plaisir à le détruire, ce monde.
Ah.
Je
vois un autre processus. Bon, ça va être un peu austère parce que c'est une référence à la philo, mais les présocratiques... ils avaient le sens de la tragédie. C'est quelque chose qui s'est perdu, des philosophes ont réfléchi dessus. C'est-à-dire, la vie, c'est affreux, c'est terrible, c'est tragique. Et la culture, tragique, fait qu'on est capable de faire face à ça. Il y a le truc qui s'appelle la catharsis, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, vivre la fin du monde à travers une œuvre de fiction, c'est quelque part se confronter son monde émotionnel et ses capacités émotionnelles à ces questions-là, et les surpasser. Parce que ce qui est génial avec la catharsis, c'est quand tu refermes le bouquin, c'est fini. Ça y est, t'es délivré. Donc, tu as profité d'une pilule de te protéger contre cette fin du monde.
Oui, et en attendant, on va tous mourir. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère, plutôt que d'aller chercher cette catharsis profondément à travers le tragique, moi, je préfère l'option du rire, qui est une autre manière de...
Le rire est cathartique, on est d'accord.
D'opérer une catharsis et avec laquelle je me sens plus d'affinité.
Je comprends.
Moi, je me sens pas visé par la question. Hein. J'écris pas d'apocalypse, j'écris pas des fins du monde. Je suis le contrepoint de ce table ronde parce que j'aime pas du tout écrire la fin du monde. Et j'écris toujours plutôt des commencements, plutôt des origines, plutôt des recommencements en tout cas. Mais si je me sers de la fin du monde, c'est uniquement comme d'un artifice narratif pour raconter plutôt les origines ou le point de départ de quelque chose.
La question était : y a-t-il une certaine perversité à écrire des fins du monde ? La réponse est oui.
C'est un peu la conclusion que je voulais, c'était très malhonnête de ma part. Il nous reste 10 minutes avant de rendre la parole.
Quand même, il faut qu'on cite pour moi le plus grand roman sur l'apocalypse qu'il y ait jamais eu, qui est De bons présages, Good Omen de Pratchett et Gaiman.
Oui. Il est assis là, il a le droit de faire le.
Oui, non. Voilà.
Il nous reste 10 minutes avant que des organisateurs extrêmement ponctuels viennent nous reprendre cette scène-là. Est-ce que vous avez des questions ? Et
qui a un micro ? Il y a un... Oui, là, voilà. Super. Il ne marche pas.
Je voulais savoir ce que vous pensiez, en fait, si l'apocalypse était vraiment nécessaire à une reconstruction du monde, ou si on n'était pas obligé d'écrire une apocalypse pour faire une reconstruction de l'humanité.
C'est bien possible. Ce qui m'embête un peu, parce que la fin du monde, elle est super à la mode. Je ne sais pas, levez la main ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu The Walking Dead. Il y en a quelques-uns, d'accord, ok. Non, mais on est des drogués, en fait, de fin du monde, principalement de fin du monde zombie. Et j'ai participé à un colloque où, en fait, la conclusion, c'était que les formes de société qui se recréent après l'apocalypse zombie, la plupart du temps, sont pratiquement de l'ordre du militaire fasciste, de la défense permanente, etc. C'est pas un monde super souhaitable, à mon sens. Ouais, non, après, besoin d'un apocalypse, posez-vous la question intimement en vous-même, est-ce que notre monde, notre société, notre manière d'être organisée est durable et souhaitable dans la forme où il est actuellement? Et on expliquera pourquoi il peut y avoir cette tentation d'apocalypse dans le sens de révélation et pas dans le sens de destruction ultime, mais de changer de cycle, de changer de logiciel. Et encore, le mot logiciel n'est pas très bien choisi.
Moi, je dirais que l'apocalypse n'est peut-être pas nécessaire, mais la peur de l'apocalypse peut être utile.
Oui, pour les dictatures.
Non, pour amener aussi chacun à changer son mode de vie.
Oui, créer un stress. Ouais. D'accord. Le jour où la Terre s'arrêta, Ozymandias dans les Watchmen, qui veut créer une fausse fin du monde en faisant exploser des tours à New York, et pour que tout le monde stresse et se dise « Ah, il y a des extraterrestres qui nous veulent du mal, ça va être la fin du monde, donc on va tous devenir amis et s'aimer, et du coup les Russes et les Américains deviennent des grands amis. »
Non, moi je pensais tout simplement au fait que chacun de nous peut prendre conscience de son mode de consommation, réduire ses modes de consommation, faire un peu plus attention à des tas de choses. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont été élevés en bouffant de la viande deux fois par jour et qui aujourd'hui fait gaffe à en bouffer vachement moins, une fois par semaine. Et c'est une multitude de petits détails avec lesquels on peut espérer, quand on est quelqu'un de positif, ce qui manifestement nous différencie, on peut espérer avoir des mouvements humains qui peuvent un peu changer les choses.
Oui, c'est vrai que l'apocalypse, ou l'univers apocalyptique, c'est aussi, ça ressort de ces vieux principes mythologiques qui sont de commencer une histoire quand tout va mal. Quand on commence une histoire par être surheureux, ils ont beaucoup d'enfants, et vous avez vachement mal à continuer la suite. Hein. Donc si vous voulez attirer l'attention d'un lecteur, vous êtes obligé de partir d'un constat de dystopique, un constat de problème, et donc des héros qui vont se lever ou qui vont se révéler pour... Donc c'est le héros au mille visages de Joseph Campbell, hein, c'est-à-dire quelqu'un de jeune qui va essayer de reprendre les choses en main pour pouvoir rétablir quelque chose. Je pense qu'un auteur se mesure à son optimisme à la fin du récit. Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'il ouvre une porte lumineuse ou pas ? Ou est-ce qu'il ferme la porte au nez de son lecteur en disant « Oui, c'est la catastrophe, donc il ne reste plus rien ». Donc voilà, c'est un vieux principe simplement de récit qui fait que ça attire plus l'attention parce qu'on part mal au départ et que si ça part pas mal, ben personne ne va bouger.
Il n'y a pas d'histoire ?
Oui, il n'y a plus d'histoire. C'est pour ça que l'utopie est très difficile à raconter, parce que l'utopie, tout va bien. Quoi. Et l'utopie débouche pratiquement systématiquement sur de dystopie, parce que le bonheur pour tous obligatoire et tout va bien, c'est insupportable aussi. Quoi.
En fait, la question de l'environnement, dont on n'a peut-être pas assez parlé, est en train de jouer le rôle dans nos représentations de la question du nucléaire dans les années 50, je pense. C'est-à-dire que dans les années 50, on avait cette peur de la... Les fins du monde, il y en a plein. Il y en a plein à chaque fois qu'une civilisation décline ou s'effondre, à chaque fois qu'une cité décline ou entre en décadence. Les fins du monde, l'humanité en a connu des centaines, des milliers. Mais la fin de tous les mondes possibles, l'effacement total, c'était la bombe nucléaire. C'est-à-dire, c'était après Hiroshima, Nagasaki, c'était l'idée que l'humanité avait enfin la possibilité de tout détruire. Et je pense qu'on revient un peu dans cette logique avec les problématiques de l'environnement, c'est-à-dire que le changement climatique, maintenant absolument reconnu et attesté de façon scientifique par le GIEC, montre qu'il est possible qu'à un moment donné, dans notre futur plus ou moins lointain, il y ait une destruction totale du monde. Et je pense que ça joue sur nos représentations le même rôle que la bombe atomique a joué à un moment donné dans les consciences. Et comme elle a un peu simplifié, elle a un peu réduit notre champ de réflexion, ben je pense que la problématique de l'environnement est en train de faire la même chose.
Le nucléaire est pas loin, avec Kim Jong-un et des, je sais plus comment il s'appelle, et Trump et l'Iran et tout le bazar. Il y a quand même un arsenal nucléaire qui est toujours là, en sous.
Bon, il y a une grosse différence quand même entre la question nucléaire et la question environnementale. C'est que la question nucléaire, on était là, on attendait, on était victime forcément. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a, à tort ou à raison, l'impression qu'on peut influer chacun individuellement.
Ou que d'une manière ou d'une autre, on est responsable. La bombe atomique, c'est des tarés. C'est Kim Jong-un ou l'autre aux États-Unis, là, je ne sais plus. C'est des tarés qui balancent les bombes, ce n'est pas nous. Alors qu'en revanche, l'apocalypse écologique, c'est nous à chaque fois qu'on va acheter de la viande, nous à chaque fois qu'on allume la lumière chez nous, quoi.
Oui, mais là, on parlait de culpabilité tout à l'heure, ça recommence, quoi.
C'est ça. Non, mais il y a un fond de culpabilité dans l'apocalypse. J'ai travaillé là-dessus sur Tourville, en fait. C'était ça l'idée. C'est un apocalypse écologique et de longue, le héros se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se taper un trip mystique? C'est-à-dire, on se fait ce film-là, quoi, véritablement. De la culpabilité, parce qu'on est des drogués de la culpabilité.
En même temps, ça n'a pas été tout le temps. Il y a une nouvelle vague de science-fiction qui arrive dans les années 60 avec une nouvelle image de la science et qui justement va redémarrer en fait un nouveau cycle imaginaire où la science va devenir celle qui va nous permettre de corriger les erreurs du passé. On peut très bien imaginer ce genre de choses. Et cette ambiance-là est très bien rendue dans Tomorrowland d'Andrew Stanton, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, où le film est exactement là-dessus. C'est sur une fin du monde qui est en fait le résultat de la manière dont on n'arrive pas à imaginer qu'il va se passer autre chose que la fin du monde. Et une espèce de boucle comme ça à travers le temps qui fait qu'à force de jamais croire qu'on a un avenir, bah finalement, effectivement, on enferme les portes.
Oui, ah, ça marche maintenant. Du coup, c'est marrant parce que j'allais rebondir en fait sur une des phrases qui a été dite, qui était un peu une formule lapidaire en disant que la SF ne devait pas... où l'ASF pamphlétaire se périme vite, je crois que c'est... Voilà. Et tout à coup, là, ça engage un débat extrêmement politique, et en même temps, paradoxalement, vous êtes tous sur une position de subjectivité, comme s'il fallait se cacher derrière, et que le politique, c'était le méchant, le mal, tout ce qui nous a corrompus, etc., alors qu'il y a une position aussi que j'ai l'impression que vous décrédibilisez en vous positionnant... comme vous l'avez fait en disant que la SF pamphlétaire était vouée à la périmation programmée, tout en se disant de toute façon il faut aller chercher dans nos profondeurs, comme une espèce de production, enfin un produit, en tout cas votre parole, ce que vous racontez, votre discours, mais tous hein, un peu ça se mélange, etc., ça veut pas dire les choses, mais une des positions aussi, moi j'ai l'impression honnête qu'il faudra avoir, c'est aussi une littérature de divertissement vendable ou pas vendable, a aussi une posture politique. En fait, il ne faut pas se cacher derrière ça. Et un des enjeux de la SF et de l'anticipation telle qu'elle est formulée peut aussi se jouer dans la politisation. Et attention, politisation, je n'ai pas dit renvoyer à la classe politicienne, etc. Je pense qu'il y a d'autres solutions que le Léviathan qui ont été mis en place. Et ça me fait penser aussi à justement cette espèce d'hypocrisie générale à nous renvoyer à nos subjectivités, même si elles sont importantes. Vous avez dit subjectivité collective, ça veut dire quoi? Et l'apocalypse, la plupart du temps, c'est une façon aussi de repenser la communauté politique et la première des questions. On est des êtres politicos, en fait. Enfin, je ne sais pas comment le formuler bien. Je suis un peu comme ça, parce que ça... Enfin, il y a beaucoup de moments où j'ai entendu ce débat-là. Non, l'auteur de SF doit rester dans la fiction, il n'est pas prophétique, etc. C'est... Mais vous êtes, en fait, dans une forme de prophétisme à dire que le politique, il est mort, en fait.
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Et du coup,
c'est votre
désolée,
interprétation.
Oui, c'est une interprétation, mais c'est pas que vous. Hein. Vous avez...
Non,
ma petite phrase d'accroche, en fait. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a cette espèce de vouer le politique à la gémonie, et on va pas s'en sortir seulement... Enfin, et je veux pas non plus être prescriptif, et je comprends bien que vous êtes pas des prophètes. Mais finalement, en prophétisant la mort du politique quelque part, alors que vous travaillez à partir de l'apocalypse et donc la refondation des communautés et donc du politique, il faut quand même être... voilà. Bon, c'était juste une intervention alors, un peu comme ça. Mais...
C'est très bonne intervention de votre part, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on sur ce plan-là, on est d'accord, mais j'ai dit que la science-fiction politique avait tendance à périmer. Mais je n'ai pas dit que la science-fiction n'était pas politique. Moi, si j'écris de la science-fiction, je suis historien du droit et des idées politiques, c'est uniquement parce que la science-fiction... et politique, au sens strict du terme. C'est l'histoire de la cité, c'est la manière dont elle nous interroge sur les représentations que nous avons du monde politique et de ce que nous voulons faire de la collectivité. C'est pour ça que j'écris de la science-fiction, je m'intéresse exclusivement à cet aspect-là. Simplement, si la science-fiction est trop explicitement, directement politique, lorsqu'elle est un pamphlet, elle périme, c'est tout. C'est-à-dire que des textes pamphlétaires écrits dans les années 70 sont illisibles aujourd'hui parce que le contexte politique dans lequel ils ont été émis n'existe plus. Mais ils ont joué le rôle qu'ils devaient jouer.
On vit aujourd'hui dans les SF des années 70. Pour moi, on vit aujourd'hui dans la science-fiction des années 70. Je vois pas les choses périmées, hein, les centrales nucléaires, etc. Je veux dire, c'est encore comme ça qu'on a la lumière ici aujourd'hui, quoi.
Pardon, il y a aussi, oui, sur l'idée du pamphlet en tant que contenu. Après, il y a justement aujourd'hui, par rapport à une logique de la catastrophe avec un mécanisme de levier qui s'appelle la peur, qui impuissantise, ouais, il peut y avoir aussi un choix très politique à mettre en place des résistances, en fait.
Oui, j'aimerais ce que vous définissiez par politique. Ce que vous entendez par politique.
Politique, c'est effectivement l'appartenance à une cité dans laquelle on ne peut pas se réfléchir seulement comme des subjectivités et qu'à un moment donné, le faire corps, faire il ensemble. Peut être dans la conflictualité, mais il faut trouver des modes de régulation de cette conflictualité. Et là, des solutions peuvent être apportées à partir de l'hypothèse de l'apocalypse.
Et on regarde
des hypothèses pas prédictives, on est d'accord.
On regarde la subjectivité, qu'appelez-vous l'objectivité du coup?
Pardon?
Qu'appelez-vous l'objectivité en regard de la subjectivité?
Je ne crois pas à l'objectivité non plus, mais je pense que le concept que vous avez balancé tout à l'heure, qui était celle de la subjectivité collective, est plus intéressant que celle de notre petite subjectivité avec notre smartphone ou, je ne sais pas, interconnecté. En fait, à un moment donné, il y a aussi cette possibilité, et je n'ai pas envie que, justement, on ait du pamphlet et de la SF prédictive. J'ai juste envie d'assumer à un moment donné aussi, comme vous avez très bien peut-être répondu, qu'à un moment donné, il y a une posture politique aussi des écrivains de SF et qu'il faut le dire comme tel. Il ne faut pas se cacher derrière... j'écris des récits. Les récits sont éminemment politiques, surtout sur la SF d'anticipation, très proche et même l'Uchronie, voilà, il y a quand même un rôle qui n'est pas celui seulement du divertissement capitalisme.
Ce que vous faites là, c'est un discours. Quelle est votre opinion politique? Quelle est votre opinion politique?
J'ai pas la donnée. Je pense
Pourquoi?
Parce qu'on n'est pas là pour discuter de ça. Je dis juste...
Donc ça n'a aucun intérêt. Vous me faites un discours sur la politique générale.
Et non, vous voulez que je vous définisse la politique, c'est
non,
ça
Non, mais que... dans cette salle, là, tout le monde a des opinions politiques différentes.
Je suis pas là pour les donner. En fait.
Mais oui, mais en fait, du coup, le discours tombe complètement à plat parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique. Vous dites la politique peut changer quelque chose. Qu'est-ce que vous avez comme système pour changer les choses? Qu'est-ce que vous proposez comme système pour changer les choses?
Je ne vais pas faire en deux minutes quelque chose où je vais vous balancer comme ça.
Donc à quoi ça sert?
Si vous voulez que j'ai une parole située, oui, je viens plutôt du monde libertaire, anarchiste, etc. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres façons de s'en sortir qu'avec un putain de Léviathan qui va nous tomber sur la gueule. Et que je pense aussi que la starification ne marche pas non plus. La subjectivité seule, éloignée des autres, ça ne marche pas non plus. Et voilà, j'ai une parole située, si c'est ça que vous voulez avoir, mais...
Non, mais la question, c'est pas que vous ayez une parole située. D'abord, c'est votre droit le plus fondamental. Et chaque auteur a une parole située aussi. Ce que je disais, c'est que le récit, c'est le visible, c'est la partie la plus évidente. C'est qu'un auteur qui fait un pamphlet politique par la science-fiction sans faire de récit, il fait quelque chose qui n'est pas de la science-fiction. Mais sous le récit, je vous prends un exemple, Fahrenheit 451, qui est un livre absolument admirable, c'est évidemment un récit magnifique derrière lequel il y a un message très clair. C'est que sans les livres, sans la culture, pas de critique, pas d'esprit critique, pas de possibilité de contredire un système dans lequel on est immergé. Donc on est d'accord, hein, fondamentalement. Ce que vous avez dit, c'est ce que font les auteurs de science-fiction aussi, mais derrière l'existence du récit. On arrête, oui, pardon.
Oui, de toute façon, toute description sociétale est une prise de position politique de la part d'un auteur. Tout simplement.
Oui, mais c'est... On va retomber dans une espèce de mécanisme permanent. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier le mécanisme.
La vie,
c'est pas d'être dans un système de pensée, parce que ce système de pensée va forcément se heurter à un autre système de pensée. Quel est le plus légitime? Qu'est-ce qui permet à chacun de se dire légitime dans un système de pensée? C'est ça qui m'intéresse, moi. Pourquoi ce système de pensée-là est plus légitime que celui-là? Pourquoi est-ce qu'il est plus légitime que celui-là? Qu'est-ce qu'il a amené dans le passé? Qu'est-ce qu'il va amener dans le futur? Ce sont des convictions. Alors, j'accepte les convictions. Il n'y a pas de problème avec les convictions. Mais les convictions vont se heurter à d'autres convictions. Et ça va être toujours des vagues. Je parlais tout à l'heure des vagues qui sont heurtées les unes contre les autres.
Et oui, ce qui est toujours frustrant avec les fins du monde ou des conférences, c'est que malheureusement, nous devons nous arrêter.
Stop,
donc il faudra récupérer plus tard. Merci.